Okay.
Oye, qué rico suena, la centella.
Salon privé, 21h-23h, avec Ignace sur Fusion.
C'est Salon privé que vous écoutez. Nous sommes lundi soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec notre invité de soir, Louis Félix Auger Lafontaine, avec qui nous allons en venir à des choses un peu plus personnelles. Ses goûts musicaux, nous commençons à les connaître. Il aime la bonne musique martiniquaise. Il a parlé tout à l'heure de Falfred, dont il a choisi un titre. Il a choisi un Malavoie. Et puis là, je le sens venir. L'amateur de musique latine.
Tout à fait, oui.
C'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire qui a un lien avec toi. comme je l'ai dit tout à l'heure, à la découverte de la culture et la révolution cubaine, sur le rebord de la fenêtre de tes parents à la Grand-Rue, avec Émile, et tous nous étions par... Il y avait aussi les hormones, etc. Et donc, ce qui fait que très tôt, ça m'arrive d'ailleurs de donner quelques leçons de musique à des Cubains.
Mm-hmm.
Oui, ça m'arrive. Je leur parle de la Sonora Matancera, et ils sont étonnés que je rectifie parfois tel ou tel titre sur lesquels ils se sont trompés, ou Orlando la série, etc. Mm-hmm. Ça, je dois ça à Rivière Pilote et à Émile surtout, mais Georges, ton grand frère était en France à ce moment. Donc voilà. Mais je suis très intéressé par, actuellement, je écoute avec attention la musique qui fait synthèse entre les rites traditionnels martiniquais et des formes d'interprétation plus modernes. Ce que fait Edmond Mondésir m'intéresse beaucoup. J'ai entendu encore hier un titre qui m'a beaucoup... Parce que je trouve ça intéressant. Il y a là un sécrétisme intéressant. Donc, je ne suis pas du tout fermé sur ça, en tout cas.
Est-ce que la musique est un aspect culturel de des sociétés que vous étudiez?
Pas moi, parce que je suis... il faut être spécialiste. Il faut que, bon, vous savez, chacun... Par exemple, la littérature, je ne connais pas bien. Bon. Je connais des amis sociologues qui sont sur leur domaine de prédilection. La musique aussi, c'est pas... Bon, moi, j'ai quelques notions musicologie, à Cuba et en Martinique, mais ça ne va pas plus loin. Ça fait partie d'une culture très générale, disons.
Sport?
Ah oui, beaucoup, jusqu'à ces dernières années, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur identité martiniquaise et sport. C'était jusque dans les années 80-85. C'était pour moi un terrain d'analyse anthropologique, on va dire, extrêmement fécond.
Quand on a un grand-père qui a été maire...
Et qui m'a élevé, en plus. J'ai été élevé comme...
Ça donne pas des idées?
Eh bien, écoutez, je pense que c'était le contraire. C'est-à-dire que j'ai été élevé par mon grand-père, qui était maire de Rivière-Pilote pendant 33 ans. C'est lui qui m'a... La mort de mon père, c'est lui que j'ai été élevé. Et donc, j'ai vu ce que c'était la politique. Je pense... J'ai dû combattre chez moi, c'est la version que j'ai eue pour cette politique, on va dire, pour ce qu'on peut appeler la politique municipale. Hein. Bon. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours de la politique, mais enfin, j'ai dû vaincre ça chez moi pour accepter d'accompagner Lucien Veilleur pendant deux mandatures en tant qu'adjoint au maire. Mais je n'ai jamais eu envie d'être maire, jamais. J'ai jamais eu envie d'être élu, c'est pas par égoïsme, parce que je pense qu'il y a des choses que je sais pas faire.
Par exemple?
Je suis parfois peu porté à la transaction, à la négociation, je suis un peu intransigeant, et parfois, et j'ai beaucoup appris d'ailleurs avec Lucien Veilleur, j'ai appris énormément dans le sens qu'il avait du peuple. À savoir attendre, composer, ne pas être trop intransigeant. Et bon, voilà, je ne suis pas sûr de... Et puis, je pense aussi que je ne suis pas sûr de pouvoir toujours supporter les inconvénients de la fonction, hein, parce que on décrit au sens de décrier beaucoup les élus, mais en oubliant deux choses. La première, c'est que il n'y a pas de société sans politique. Ça, il y a des gens qui rêvent, hein, qui pensent que la politique va disparaître. Ça n'existe pas. Donc, là, autrement dit, il faut assumer la politique. La deuxième chose, il y a des gens qui oublient aussi que ce qui fait les élus, c'est la relation à la population. Et cette relation à la population, je préfère vous dire que ce n'est pas une chose facilement supportable en Martinique. Alors, ce que je viens de dire n'exonère pas pour autant, ne disculpe pas pour autant les graves défaillances, je dis bien les très graves défaillances du monde politique que nous voyons en Martinique. Pourquoi ? Parce que c'est pas un phénomène propre à la Martinique. Il faut jamais oublier que la dépolitisation, au sens que l'absence dans une société donnée de participation de la population à la gestion de ses propres affaires, parce que c'est ça la cité, c'est ça la politique, hein. Eh bien, cette dépolitisation-là, le fait que les gens n'ont plus envie de faire ça, ne veulent pas le faire, ils rejettent ça, ça fait partie des formes de dégradation de la société. Autrement dit, au lieu qu'on dise, ça m'arrive moi-même aussi, d'exprimer mon dégoût par rapport à la politique, exprimer son dégoût par rapport à la politique, c'est peut-être naturel, mais c'est pas une réaction rationnelle. Il faut au contraire, à la mauvaise politique, il faudrait exiger de la bonne politique. Vous voyez, il faudrait mettre encore plus de politique pour faire partir la mauvaise politique. Parce que la politique, la vraie politique, on en a besoin pour faire du développement et pour que la société aille mieux.
Pourquoi l'élite intellectuelle de Martinique se détourne de la politique?
Ça fait partie. C'est une question qui m'est chère parce que moi-même, j'aurais pu. J'ai été sollicité à plusieurs reprises. J'étais pour aller plus loin, pour en faire. Mais je pense que nous sommes arrivés un peu tard. Nous sommes arrivés au moment où la dégradation était extrêmement forte.
Celle dont tu parlais en début d'émission.
Ah oui. Je pense que maintenant il faudrait beaucoup 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 de courage. Et parfois je suis absolument admiratif de ceux chez qui je sens de bonnes choses et qui veulent faire la politique. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin je sens quand même, parfois il y a des personnes qui veulent faire la politique qui ont de bonnes intentions. Mais j'insiste là-dessus, une des solutions à notre dégradation, c'est d'enlever la dépolitisation pour mettre de la bonne politisation. Vous savez, il faut, c'est un peu comme certains traitements homéopathiques, il vaut mieux mettre certains virus pour que ça puisse aller mieux. Et parce que ça ne va pas partir d'une baguette magique, hein, cette dégradation.
Tu as été de ceux qui, dans les années 80, a impulsé l'ouverture des IMP, des IMPRO. S'il fallait faire un bilan aujourd'hui de ces établissements, lequel serait-il ?
Je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux de ma vie. Bon, parmi les choses que j'ai fait de... Bon, j'ai fait aussi des enfants merveilleux, qui me donnent une grande satisfaction. Mais c'est ce que je vous disais de la sociologie, d'anthropologie. Je crois que tout ça, ces sciences-là n'ont des terrains que parce qu'elles peuvent être appliquées et que leur application serve au bien commun. Et très récemment, j'ai entendu la jeune femme qui a reçu le prix Nobel dire la même chose des mathématiques. Eh bien, j'ai créé 4 établissements auxquels il faut ajouter 2 autres que je suis entré, dont je m'occupe toujours. Donc, ce sont des expérimentations et chaque fois, j'ai trouvé des équipes avec moi. C'est ça qui est une de mes plus grandes satisfactions de ma vie, c'est que j'ai souvent trouvé des gens avec lesquels on a fait de très bonnes choses. Et puis nous avons beaucoup, beaucoup aidé beaucoup d'enfants à s'en sortir.
Ça a été
extrêmement utile. Ça fait partie peut-être des choses qui freinent un peu la dégradation, dans la mesure où on traite des difficultés des enfants. Actuellement, je m'occupe d'un grand CMPP, je m'occupe d'une structure, je m'occupe indirectement, enfin je ne suis pas salarié, je suis qui reçoit 1400 enfants. On s'occupe de 1400 enfants qui ne vont pas bien. Il y a des enfants, on l'a dit, qui sont en grande souffrance et on silencieusement, dans un, un petit coin, des gens ne le savent pas beaucoup, mais il y a des gens, il y a des travailleurs sociaux qui s'en occupent, et ça fait partie, avec aussi l'écomusée de l'Ancien-Église, ça fait partie des plus belles choses de ma vie, qui donc, de temps en temps, lorsqu'on voit la dégradation, on cherche des souvenirs, on se met à repasser dans son esprit, c'est le film de tout ça, y compris aussi la vie de la rivière pilote, mais aussi des choses plus modernes, c'est-à-dire ce que je viens de dire, la gestion de ces structures qui en tout cas me donne entière satisfaction.
S'il fallait recommencer?
S'il fallait recommencer, je pense que moi je me serais occupé de moins de choses qui ne soient pas dans ce secteur du médico-social. Je me serais donné beaucoup plus là encore, parce qu'il y a des choses qui sont encore à faire d'ailleurs, puis on a de l'âge, on n'a pas toujours la force de le faire à 74 ans, mais bon, autour de moi j'ai des jeunes, mais figurez-vous que je suis toujours sur des projets, je travaille sur des projets qui vont faire que vraisemblablement l'année prochaine, nous allons augmenter le nombre encore de structures qui sont à même d'apporter du bienfait aux enfants.
Comment elles sont financées, ces structures-là?
Alors, celles qui sont sous ma responsabilité, enfin sous ma responsabilité partielle, comme je t'ai dit, j'ai une équipe avec moi, elles sont financées entièrement par l'État. Ce sont des structures de l'État, et donc, parce qu'il y a plusieurs secteurs, le médico-social, c'est le secteur de l'État, et donc nous allons nous occuper un peu plus. Alors, il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont un peu, pour l'instant, encore en dehors d'une couverture de besoins suffisante, à ce qu'on appelle les enfants qui sont autistes. Et puis, il y a une catégorie d'enfants qui apparaît en Martinique. Vraisemblablement, on peut faire l'hypothèse que nous n'avons pas parlé de cette thématique, qui est une thématique importante. Donc, c'est le problème de l'empoisonnement de nos sols et de nos eaux. Eh bien, il apparaît de plus en plus à l'entrée des établissements médicaux et singulièrement à l'entrée d'une des structures qui est placée sous ma responsabilité, l'arrivée d'enfants à troubles de l'apprentissage, c'est-à-dire des enfants qui sont dyslexiques, qui ont des problèmes d'attention, etc. Et donc c'est une catégorie pour laquelle il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, je m'apprête encore à accroître nos capacités à partir de janvier avec cette équipe dont je vous parlais. On va donc y mettre deux structures supplémentaires. Donc, avec l'organisation, avec les moyens qu'il faut.
Très bien. On va rester à Cuba.
Oui.
Peut-être sous Nora Matancera, peut-être. On fait un grand bond en arrière.
Absolument, absolument.
Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ahí me voy pa' La Habana y no vuelvo más.
El amor de Carmela me va a matar.
Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más.
El amor de Carmela me va a matar.
Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más.
El amor de Carmela me va a matar.
Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más.
El amor de Carmela me va a matar.
Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Y me quedo en La Habana y no me voy más.
El amor de Carmela me va a matar.
Yo me quedo en La Habana y no me voy más.
El amor de Carmela me va a matar.
depuis 21h, nous sommes dans un salon privé, puisqu'aujourd'hui c'est lundi, je vous l'ai dit, en ouverture, notre salon de ce soir est ouvert à M. Louis-Félix Auzier Lafontaine, sociologue et anthropologue. Louis-Félix, est-ce que les mouvements sociaux qui sont innombrables en Martinique sont un handicap pour le développement et pour l'image du pays?
Ça peut l'être. Alors, notez que lorsqu'on parle de mouvements sociaux, il ne faut jamais oublier que les mouvements sociaux ne sont pas toujours liés à la seule volonté des hommes, la volonté individuelle des hommes ou de petites organisations. Nous sommes en train aussi de constater l'émergence de mouvements sociaux qui sont liés précisément, ce sont des mouvements qui sont liés réactivement, ce sont des mouvements réactifs à la situation de dégradation à laquelle nous assistons, et c'est bien connu dans les sciences sociales, c'est quelque chose de classique. Lorsque l'état de dégradation de la société arrive à un certain niveau, vous avez donc l'émergence de mouvements sociaux divers qui prennent toutes les formes. Février 2009, c'était une forme de mouvement social que la science sociale appelle les mouvements sociaux éphémères. Mais il y a d'autres types de mouvements. Les formes de mouvements que vous voyez sur la voie publique menées par des jeunes, tout ça, ce sont des mouvements réactifs. En effet, ça peut être, mais jusqu'à une certaine limite. Alors, je vais vous donner un exemple. À Paris, l'autre jour, on a donc interrogé des touristes étrangers. En leur demandant, mais est-ce que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça ne vous a pas éloigné de Paris? Les gens ont répondu comme des gens de la modernité, en disant, vous savez, nous savons ce que c'est. L'exercice de la démocratie, ça comporte aussi ces mouvements sociaux. Autrement dit, ma réponse, elle est simple. Jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain degré, ces mouvements sociaux n'altèrent pas l'image. En revanche, il y a une différence entre des mouvements sociaux tels que nous les voyons ici. Heureusement, ça n'a aucune commune mesure avec celle qu'on voit en Haïti, par exemple. Ouais. Hein? Voilà, donc, pour l'instant, à mon avis, nous restons dans un cadre d'expression démocratique, autrement dit, mesuré, cadré par le droit, par la loi, dans une certaine mesure. Et je souhaitons que ça reste comme ça.
Il y a trois points que je voudrais aborder avec toi. Un, chlordécone. Deux, réparation. Trois, sargasse. Un, chlordécone.
Écoutez, plus j'y pense, plus j'analyse ce phénomène, plus je trouve que c'est un sort effroyable qui est fait à notre société et à celle de la Guadeloupe. Effroyable. Et qui, à mon avis, est symptomatique du processus historique dans lequel nous avons été. Parce que non seulement il y a l'empoisonnement qui est en nous, hein, qui est dans notre physiologie, mais aussi il y a aussi dans notre esprit ce fait qui est terrifiant pour un peuple. Nous, Martiniquais, nous avons notre sol qui est un sol qui est impossible. Une terre qui est impossible, nous avons sous nos pieds et en nous, dans notre pays, une terre qui est normalement la matrice du pays, la matrice de la fécondité du pays, et cette terre-là, elle est mortifère. Je trouve qu'au niveau psychosocial, pour une société, c'est terrifiant. Parce que sur le plan de l'agriculture, pour moi, c'est moins grave parce que on peut arriver à développer une agriculture
hors sol,
etc. Tout ça, c'est possible. Mais ce qui est en nous là, ce qui coule dans nos veines, tous les jours, nous vivons le chlordécone. Dans le sens que tous les jours, nous entendons tel ou tel de nos amis, ou bien nous-mêmes, nous découvrons un cancer. Mais c'est terrible. Je disais donc samedi, vendredi, cette formation et cette étude que nous faisons sur les psychotraumas, on parle des catastrophes naturelles, mais ce problème du chlordécone. Il faut inventer d'ailleurs une catégorie dans les catastrophes naturelles qui serait représentée par cet empoisonnement collectif que nous vivons, et surtout par ses conséquences mortifères eu égard au nombre de cancers, à la fois chez les femmes et chez les hommes, en particulier dans la partie génitale de leur corps. Que ce soit une femme ou un homme, frappé comme ça, comme notre peuple est, je trouve ça terrifiant pour nous. Terrifiant.
On fait quoi alors ?
Eh bien, écoutez, d'abord, il faut exiger, les mesures qui sont d'ailleurs demandées par les associations qui courageusement se battent. Il faut exiger le dépistage, le soin, etc. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense, parce que chacun porte sa part, mais je pense qu'il faut exiger cela, cette réparation, puisque nous parlons de réparation, il faut l'exiger. Je pense que c'est le moins que l'État français nous doit, c'est de dépister, de soigner, etc., et surtout de nous permettre aussi de sortir, d'avoir une eau qui soit exempte de tout empoisonnement, de tout pesticide, et puis aussi une terre, des moyens pour faire une autre agriculture, etc. Je ne suis pas un spécialiste, mais voilà mon idée. C'est-à-dire qu'il faut que l'État assume ses responsabilités, comme l'État l'a fait d'ailleurs pour d'autres phénomènes du même type ou de type approchant dans l'Hexagone.
Pour les sargasses, on fait quoi ?
Alors, ce qui s'est passé, que j'ai suivi avec beaucoup d'attention en Guadeloupe, est intéressant. Je pense qu'il faut d'un inconvénient majeur, d'une catastrophe majeure, essayer d'en faire une activité par renversement, par retournement, une activité qui nous rapporte quelque chose. Mais en tout cas, je pense que je suis beaucoup plus optimiste pour les sargasses naturellement que pour le chlordécone. Ce qui a été dit en Guadeloupe est de bon augure. Je pense qu'il faut y aller dans ce sens-là, mais toujours avec quand même cette précaution que je trouve pas toujours bien pratiquée. Il faut protéger les populations maintenant, celles qui sont côtières, celles qui subissent quotidiennement une période que nous savons les effets dévastateurs chimiques, physiologiques des sargasses. Il faut la protéger, il faut aussi la soutenir, y compris financièrement, s'agissant des soins.
En ce qui concerne la réparation par rapport à l'esclavage, quelle est ta position ?
D'abord, je n'ai pas encore bien compris ce que ça veut dire, parce que j'ai pas encore bien saisi ce que ça veut dire.
Demande à Garcet.
Oui, Garcet m'a déjà expliqué une fois. Il a un point de vue, d'ailleurs, souvent très modéré par rapport à ce que j'entends. Parce qu'il y a plusieurs définitions de la réparation. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais je vais vous dire, ma position est celle de Fanon. Moi, je pense qu'il y a des crimes, il y a des atteintes à l'humain, à l'humanité qui ne sont pas réparables. Je pense qu'en vérité, du point de vue, on va dire, essentiel, l'esclavage, c'est pas réparable. Parce que le mal est fait, il est bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut réparer? Eh bien, je pense que la seule chose qui, à mon avis, qui peut être faite, c'est que la Martinique soit aidée pour qu'elle rentre dans le développement. Autrement dit, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut réparer par le positif, pas par des moyens passifs, financiers ou autres, etc. Ça, moi, personnellement, ça m'intéresse pas, parce que pour moi, ça, c'est pas réparable. De l'argent contre la saignée et les blessures d'une abomination de ce genre, à mon avis, c'est pas jouable. Ce qui est jouable, c'est véritablement nous permettre de sortir par le haut. Et j'ai envie de vous dire que la vraie résilience, vous savez que la vraie résilience, alors ces jours-ci, je suis en plein dedans, parce que j'apprends beaucoup avec les psychologues. La vraie résilience, c'est pas l'expulsion du mal, hein, c'est son intégration. Plus on va l'expulser, plus le mal va rester, c'est-à-dire moins on va résilier. Plus on va l'intégrer, plus on va savoir ce que c'est, plus on va se dire que nous avons la force de sortir de tout ça, mieux on va se porter, mieux on va résilier. Donc, voilà, mon point de vue, c'est qu'il faut de la bonne résilience. La bonne résilience, c'est par la capacité que les Martiniquais vont déployer pour faire reconnaître au monde qu'ils sont un peuple capable de réussir aussi, de faire des choses positives.
Et il me semble que l'idée de réparation fait son chemin.
Oui, oui, tout à fait, je remarque ça, mais comme je vous dis, je ne suis pas opposé, à, pas du tout, au contraire. Parce que, seulement, je veux bien savoir, je veux bien que... personnellement, je suis partisan d'une réparation qui soit digne aussi. Je ne veux pas de l'aumône. Je ne veux pas de la... Je veux pas une réparation mendicité. J'ai d'ailleurs vu un auteur en parler l'autre jour. Je veux pas de mendicité, je veux pas d'aumône. Je veux une réparation qui nous permette de sortir par le haut, par le développement, par la mise en place de conditions qui permettent aux Martiniquais de démontrer qu'ils sont un peuple capable d'apporter quelque chose à l'humanité, c'est-à-dire à faire du développement, à créer de la richesse.
Est-ce que la question est posée dans d'autres îles de la Caraïbe?
Beaucoup moins, mais il y a des... Ah oui, chez les intellectuels de l'université des West Indies, oui. Ah oui, il y a des... Mais elle n'est pas aussi prégnante. Hein. Alors, moi, j'en ai parlé un jour à un Cubain. Il me dit, la réparation, c'est tous les jours qu'on la voudrait, parce que tous les jours, nous avons des problèmes à résoudre. Les Cubains, les Dominicains n'en parlent pas non plus beaucoup. Les Haïtiens n'ont pas beaucoup le temps d'en parler, parce qu'ils sont pris par
les
problèmes.
Ils ont choses à faire.
Alors, par contre, dans l'université des Ouest-Indies, oui, Barbade, Trinidad, oui. Ah oui, il y a un courant fort. Il y a même des intellectuels qui sont des intellectuels, si je puis dire, qui sont d'avant-garde sur... Mais comme je vous dis, il y a aussi parmi eux des nuances. Vous voyez, la nuance que j'ai mise... pas une réparation aumône, pas une réparation mendicité, une réparation plutôt, on va dire, ouverte sur l'avenir, qui nous permette de recouvrer des moyens qui soient des moyens qu'on va dire, qui nous propulsent quoi, vers le futur.
Le futur, on va en parler. Cette fois, c'est moi qui propose. Je propose Michel Godzom.
Moi aussi, je suis absolument d'accord.
mardi soir sur Fusion. Salon privé.
C'est Radio Fusion, vous vous écoutez, vous êtes dans Salon privé jusqu'à 23h. Louis-Félix Osier-Lafontaine est notre invité ce soir. Louis-Félix, la Martinique dans 20 ans, 30 ans.
Et je suis pas...
Alors oui. Deux aspects. Si on en reste à ce que nous vivons aujourd'hui, ça c'est première probabilité. Et si on améliore tout, si on change tout, alors ces deux Martiniques-là, je veux que tu nous la, décrives.
Yeah. Bon, si on l'a, je préfère actuellement celle qui est
la deuxième solution,
la plus optimiste. Mais je pense que nous allons entrer, bon, nous sommes déjà entrés, mais tout ça va s'accélérer dans un monde qui est pas loin d'ailleurs, dans lequel les limites institutionnelles, politiques n'auront plus beaucoup de sens. Les interdépendances seront-elles dans le monde ? Elles sont déjà, mais elles vont s'affirmer.
Tout ça va exploser.
Et je le dis avec beaucoup de facilité parce que je regarde les gens de la Caraïbe. Une des notions sur laquelle je travaille le plus, à part celle du développement, de la sociologie du développement, c'est celle de la dépendance. Et comment dirais-je, le contraire de la dépendance, c'est pas l'indépendance. Il y a d'ailleurs un sociologue brésilien qui l'a bien dit. Cette phrase a été citée d'ailleurs par un économiste martiniquais. Il a pas lu toute la phrase. D'ailleurs, il aurait pu voir que le contraire de la dépendance ou de la dépendance forte, celle dans laquelle nous sommes, c'est la dépendance raisonnable. Les pays de la Caraïbe, tous les pays sont dans un type de relation avec les autres de dépendance raisonnable. Tout le monde est dépendant l'un de l'autre. C'est ça qu'on appelle l'interdépendance. La dépendance raisonnable, c'est la dépendance dans laquelle chacun trouve son intérêt. Chacun arrive à s'épanouir et aussi chacun arrive à porter à l'autre quelque chose de lui-même qui soit bon, qui soit de l'ordre des valeurs. Nous allons entrer dans ce monde-là de plus en plus. Et je pense que, en revanche, bon, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que nous faisons tout pour actuellement pour apprendre à cela, pour nous former à cela. Écoutez, ce matin, je regardais que il y a une prochaine réforme en France sur la décentralisation encore, et avec ce qu'on appelle des souverainetés partielles qu'on va donner aux régions. Est-ce que nous sommes prêts à assumer d'autres souverainetés? Le président de la République l'a dit en passant une fois ici, bon, donc c'est un mot qui ne doit pas faire peur aux gens. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, ben, tout ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Et si je dois préciser ma pensée par rapport à l'avenir, je dirais que l'avenir, c'est cet avenir que nous allons préparer et pour laquelle il va falloir qu'on se forme sans prétention. C'est-à-dire que nous devons être, et Pierre, permets-moi d'insister, nous devons tous réinvestir le champ de la simplicité, de la sobriété en Martinique.
Ça manque ?
Ça manque beaucoup. C'est-à-dire, je vois des égos surdimensionnés partout, face à des problèmes que je vois tous les jours dans les pays du bout, dans les autres pays que je visite, et je me dis que ce qu'il faudrait qu'on ait en Martinique, beaucoup plus de simplicité, de sobriété, de retenue, et puis aussi de modestie pour savoir les affronter, et je ne suis pas sûr qu'on sache le faire tout le temps. Je pense plutôt le contraire. Il faut qu'on apprenne à résoudre nos problèmes. Et je crois que là, ce que je disais par rapport à l'avenir a un sens, bien c'est dans cette direction qu'il faut aller. Il faut qu'on soit, je m'excuse de le répéter 1000 fois, il faut qu'on soit beaucoup plus modeste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à gérer nos problèmes.
On peut dire que tu es raisonnablement optimiste.
Je suis raisonnablement optimiste, mais ce qui me rend, ce qui fonde la dose d'optimisme que j'ai, c'est la qualité intrinsèque des Martiniquais. Parce que lorsque, comme moi, à un certain âge, et puis quelques outils en main pour décrypter le réel, lorsque j'enlève l'enveloppe parfois de prétention, de roulage de mécanique que je vois devant moi, ou d'orgueil, de prétention, et que je regarde les hommes, nous avons des hommes qui ont des grandes capacités en Martinique. Des très grandes capacités. C'est ça qu'il faut qu'on remette à l'ordre du jour, c'est la vraie compétence, la vraie capacité des hommes, c'est-à-dire leur degré de formation. pour affronter ce qui fait l'essence même de l'humanité, c'est-à-dire la satisfaction des besoins que nous avons à satisfaire, à régler dans ce monde d'aujourd'hui pour qu'on puisse vivre. Or, pour l'instant, tout ça manque. Il va falloir qu'on y travaille beaucoup, beaucoup, parce que cet avenir dont tu parles, Pierre, il ne va pas nous attendre. Hein?
J'avais dit raisonnablement optimiste. C'est vraiment raisonnablement optimiste.
On peut même dire très raisonnablement optimiste. Très raisonnablement. Mais enfin, vous savez, moi qui vois les personnes qui ont des difficultés tout le temps, il y a une capacité en l'homme de résilience qui est parfois inimaginable. Ce que nous voyons qui est actuellement très fortement dégradé, parfois, bon, à travers tout ça, je vois parfois des gens, je me dis comment ils peuvent exister, ou des gens si bien dans ce pays-là. Donc, lorsqu'on enlève l'enveloppe, cette fameuse enveloppe dont j'ai parlé, il reste cela quand même. Il reste beaucoup de mantidiquets qui, à mon avis, sont porteurs, que ce soit dans les classes modestes, que ce soit dans les classes moyennes ou ailleurs. Il y a des mantidiquets qui sont porteurs de grandes valeurs, au sens à la fois éthique, mais aussi au sens aussi d'une pensée de l'action, quoi, qu'ils sont capables de faire.
Oui, Félix, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Nous avons passé 2 heures ensemble, 2 heures fort agréables.
On ne les a pas vues passer.
On ne les a pas vues passer. Voilà. Mais puisque tu parles de passé, tu repasses quand tu veux.
Exactement.
Bonne soirée à tous.
Merci beaucoup.
Merci, Félix. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à cette heure tardive. Merci. À lundi prochain pour un autre salon privé. Bonsoir à tous.